Bonjour Alain Marceau.
Bonjour Monsieur Rivière.
Vous avez participé il y a quelques jours au dîner d'une petite vingtaine d'élus, vous étiez précisément 17 je crois, d'élus républicains très préoccupés, c'est un peu une litote, par les difficultés de la campagne de François Fillon. Ce que l'on a appelé une fronde ne l'a pas abattu. François Fillon est toujours là, toujours en campagne. Vous-même, où en êtes-vous? Et avec vos amis, est-ce que désormais vous le soutenez pleinement ou est-ce que vous avez encore des réserves sur sa capacité d'emmener la droite à la victoire?
Oui, ce qui n'était qu'un casse-croûte a été baptisé de dîner des frondeurs. Ça n'avait absolument pas ce caractère. Il s'agissait finalement pour quelques députés et sénateurs de se réunir et de demander la réunion du bureau politique des Républicains, car effectivement nous avons estimé à tort ou à raison d'ailleurs, que cette campagne ne se faisait pas suffisamment avec l'aide et un accord avec le parti, à savoir que nous aurions souhaité que le parti soit peut-être plus impliqué dans cette campagne, qui certes est la campagne d'un homme candidat, qui est François Fillon, et que nous soutenons sans aucune équivoque. Et d'ailleurs, à la fin de cet entretien, à la fin de cette réunion, et il y en a eu d'ailleurs d'autres qui n'ont pas été aussi médiatisées, il y en a une qui s'est tenue le lendemain sous la présidence de Xavier Bertrand, au cours de laquelle se sont dit à peu près les mêmes choses, ça n'a pas été considéré comme une réunion de frondeurs. Donc effectivement, nous avons regretté que l'on n'associe pas assez le parti, et puis point, c'est son choix. C'est lui, c'est François Fillon qui mène sa campagne comme il le souhaite. Et celle-ci peut trouver une inflexion effectivement prochainement, et espérons que nous pourrons tous travailler beaucoup mieux ensemble.
Il s'est isolé dans cette campagne, François Fillon, c'est ce que vous nous dites, autour d'une équipe resserrée, sans le parti. Pour quelle raison? Parce qu'il a senti justement une défiance chez les élus républicain, ou est-ce que c'est le phénomène inverse? Dans quel sens
non,
ça s'est passé?
Je crois que c'est un problème de stratégie. Autant, par exemple, une campagne avec Nicolas Sarkozy, c'est une campagne où on étale un peu tout, où on essaye de rassembler un petit peu tout le monde à gauche, à droite, je veux dire, même des fois avec de la gauche, d'ailleurs, et on fait participer tout le monde. Autant François Fillon, peut-être pour de bonnes raisons, travaille avec des gens avec lesquels il se sent tout à fait en confiance, et donc ça restreint forcément ce pôle actif, mais je crois qu'après tout ça, ça peut être adapté, et puis peut-être qu'il a raison, au fond, ça, je ne porte pas de jugement sur la manière dont il a décidé de mener cette campagne.
Vous estimiez, il y a quelques jours, au moment de ce dîner, que la campagne n'était plus tenable, compte tenu des proportions que prenait l'affaire des emplois potentiellement fictifs de sa femme et de ses enfants. Aujourd'hui, vous avez l'impression que ça va mieux, que François Fillon peut faire une vraie campagne?
Ce n'est pas moi qui ai utilisé ce terme. Je crois que c'est certaines personnes présentes au dîner qui ont dû dire ça. Mmh. En ce qui me concerne, je n'ai pas eu ce type d'appréciation. Je crois que c'est effectivement cette campagne qui est en train de repartir dans de bonnes conditions. Alors, ce n'est pas les conditions optimum qu'on pouvait nous décrire au mois de novembre.
Les comités d'accueil avec les batteries de cuisine.
Oui, mais enfin, ça, je crois qu'on est en présence de manipulations diverses au niveau local, avec quelques partis ou syndicats qui ont décidé de faire la peau à François Fillon. C'est pas une très belle image que l'on peut donner de la démocratie, à mon sens. Mais tout ça se calmera, je crois, lorsque on va véritablement rentrer dans la partie dure de cette campagne. Et je crois que c'est pour la semaine prochaine, à peu près, dans ces eaux-là.
Le siège du Front National a été perquisitionné hier dans le cadre de l'enquête sur de possibles emplois fictifs au Parlement européen. Comment vous interprétez cette accélération des procédures? François Fillon d'un côté, le Front National de l'autre, à quelques semaines de l'élection présidentielle.
Eh bien, le magistrat que je suis ne vous aurait pas dit cela il y a quelques semaines. Mais je m'interroge, j'espère à tort, sur l'instrumentalisation de l'on que certains voudraient faire de ce parquet national financier, qui a sans doute été créé pour de bonnes raisons, à savoir pour mettre un peu plus d'honnêteté dans la vie politique et plus de transparence. Mais là, j'ai véritablement l'impression que certains sont tentés de l'utiliser comme le bras armé de leur politique, tout simplement pour déstabiliser les concurrents. Et dans ces cas-là, si c'était effectivement le cas, mais encore une fois, j'espère véritablement me tromper, si c'était le cas, ce serait extrêmement grave pour la démocratie, et je crois que nous aurions franchi un pas que l'on n'a encore jamais franchi dans notre pays, donc j'ai dit attention à ce qui se passe. Je me trompe peut-être, et peut-être effectivement que ce brave parquet national financier fait tout simplement le boulot qu'il faut faire, mais je commence à avoir des doutes.
Vous êtes surpris par sa célérité?
Oui, écoutez, le Canard Enchaîné est publié le mercredi matin, et à midi, on saisit le dit parquet national financier, on commence les auditions et les perquisitions dans la journée. Ça me laisse penser quand même qu'il avait été avisé de ce qui allait se passer. Alors comment était-il avisé? Est-ce qu'il avait été avisé par une hiérarchie invisible, par un cabinet noir, bleu ou vert? Je ne sais pas. En tous les cas, il se passe de drôles de choses en termes judiciaires dans notre pays aujourd'hui. Et j'allais dire, calmons-nous tous. En tous les cas, qu'ils commencent peut-être eux à se calmer, parce que là, les choses deviennent intenables. Et je crois que personne n'est à l'abri de ce genre d'opération de déstabilisation.
Vos interrogations, on a bien compris que vous mettiez du conditionnel, des réserves.
Oui, je suis prudent, bien sûr.
Mais vos interrogations, elles portent sur une éventuelle responsabilité du pouvoir exécutif.
Je ne sais pas si c'est le pouvoir exécutif en l'espèce. Je ne sais pas si c'est le pouvoir exécutif qui entreprend et entretient toutes ces opérations de déstabilisation. Je crois plus à un petit groupe constitué, et je ne sais pas par qui au demeurant, mais tout à fait déterminé à faire plonger celui qui était le candidat que l'on déclarait déjà élu, et peut-être d'autres. Et aujourd'hui, je crois qu'on emploie des moyens non démocratiques, qui ne sont pas les moyens de l'élection et du suffrage universel, pour décider qui va diriger notre pays. Et croyez-moi qu'on a bien besoin d'avoir quelqu'un qui va mettre en place les réformes essentielles, parce que comme je dis souvent, en reprenant le nom d'un roman de Romain Gary, après cette limite, notre ticket n'est plus valable. C'est-à-dire qu'après 2017, si nous ne mettons pas en place les réformes essentielles dont notre pays a besoin, nous allons tout simplement mourir. Vous m'entendez, nous allons mourir, nous et nos enfants.
Le voyage de Marine Le Pen au Liban, reçu pour la première fois par un chef d'État en exercice, Michel Aoun, est-ce que c'est un élément important de sa campagne? Est-ce que ça marque une nouvelle étape?
Le Liban est à la mode. Monsieur Macron y était il y a quelques semaines. François Fillon devait y aller. Il a dû, je crois, repousser son voyage. Ouais. Madame Le Pen y est. C'est un point de passage obligé, j'allais dire, pour une reconnaissance internationale, tout simplement parce que le Liban est un pays ami, parce que Monsieur Aoun est un ami de la France, et puis Monsieur Hariri a de bonnes relations avec nous. Donc je crois que ce n'est pas une mauvaise chose à titre personnel. Je suis allé il y a quelques semaines, moi aussi, rencontrer Monsieur Aoun, Monsieur Hariri et le patriarche. J'ai vu que Madame Le Pen a fait le même chemin, j'allais dire, de croix concernant le patriarche. C'est une bonne chose. Et je crois qu'effectivement, aller au Liban aujourd'hui, c'est souhaitable, parce que tout simplement nos compatriotes y sont nombreux, sont très francophiles, très francophones, bien évidemment.
Mais ma question portait au fond plus sur le symbole, l'image Marine Le Pen reçue par un chef d'État en exercice. Est-ce que ça contribue à étoffer sa stature internationale et sa stature présidentielle?
Écoutez, vous avez la moitié de vos confrères qui nous disent que Madame Le Pen va être présidente de la République. Ben, j'allais dire qu'il serait temps qu'elle fasse ses premiers pas, effectivement, aussi à l'international, et pas seulement au national. Je ne porte pas de jugement sur la manière dont elle fait sa campagne. Je constate que Monsieur Aoun l'a reçu, mais Monsieur Aoun reçoit, j'allais dire, Monsieur Aoun reçoit tout le monde, tous les Français, parce que Monsieur Aoun a quelques bons souvenirs de notre pays. Ouais. Madame Le Pen a décidé de commencer sa tournée internationale par le Liban. Peut-être qu'elle va continuer ailleurs. Peut-être qu'elle sera reçue par Monsieur Trump la prochaine fois, ou par Madame May ou par Madame Merkel. Je ne sais pas.
Marine Le Pen a expliqué devant le président libanais que Bachar el-Assad lui paraissait un moindre mal face à Daesh. C'est un point de vue que vous partagez ?
Je crois que notre pays a réussi à se mettre dans une mauvaise position, dans un corner dans l'affaire syrienne. L'affaire syrienne a été traitée en dépit du bon sens par la diplomatie française qui s'en mord les doigts aujourd'hui car nous n'existons plus sur la zone, sauf pour y faire la guerre et pour entretenir l'État islamique. Je crois qu'effectivement on s'est trompé d'adversaire.
Pourquoi entretenir l'État islamique ?
Ah ben parce que finalement nous combattons l'État islamique sur place et l'État islamique est en train, comme il est réduit, et un jour les gens de l'État islamique qui sont français ou francophones vont débarquer sur notre territoire national avec femmes et enfants. Nous allons devoir gérer tout cela et croyez-moi que ça va être difficile. Non, je crois qu'on s'est complètement trompé d'adversaire tout simplement parce que notre adversaire c'était effectivement l'État islamique, c'était peut-être aussi monsieur Bachar el-Assad, mais on n'a jamais imaginé ce qu'on pouvait mettre à la place de Bachar. On a voulu chasser Bachar sans solution de rechange. Bien sûr que Bachar est un homme absolument épouvantable et qui ne peut pas continuer à diriger ce pays. Mais aujourd'hui, quel le succès? Monsieur Obama est parti, les Américains ne s'intéressent plus à la Syrie, il ne reste plus que les Russes, les Turcs et les Iraniens. La France et l'Europe ont totalement disparu de ce pays, et je crois que nous y sommes pour beaucoup. Et je crois que c'est une grosse faute de la diplomatie française au cours des mois passés.
Merci Alain Marceau, bonne journée.